Chapitre 19. Le Golden Gate à Machu Picchu. Ils allaient d'un globe vert à l'autre sur le Golden Gate, empruntant les escalators paralysés et les passerelles encloses dans un vert couleur émeraude qui reliait les gigantesques câbles soutenant la chaussée au-dessous d'eux. Odysseus les accompagnait.
« Tu es vraiment l'Odysseus de l'épopée du Turin ?» lui demanda Anna.
« Je n'ai jamais vu l'épopée du Turin, » répondit-il. Ada remarqua que l'homme qui disait être Odysseus n'avait répondu ni par l'affirmative ni par la négative, se contentant d'éluder la question.
« Comment es-tu arrivé ici ?» lui demanda Harman. « Et d'où viens-tu ?»«
La réponse à cette question est assez complexe, » répondit Odysseus. « Cela fait un certain temps que je voyage en quête de ma patrie. » Ce lieu n'est pour moi qu'une étape où je puis me reposer un peu et j'en partirai dans quelques semaines. Je préférerais raconter mon histoire plus tard si vous le voulez bien. Peut-être ce soir, pendant le dîner. Il est possible que sa vie Ur soit en mesure de m'aider à interpréter certaines parties.
Ada trouvait fort étrange d'écouter s'exprimer une personne dont l'anglais courant n'était pas la langue maternelle. C'était la première fois de sa vie qu'elle entendait un accent. Il n'existait même pas de dialectes régionaux dans son monde maillé par le fax, où tout le monde vivait partout et nulle part. Ils émergèrent au sommet du pylône où sa vie avait fait atterrir le Sony. Côté sud, le soleil effleurait la pointe de l'un des deux pics auxquels s'ancrait le pont. Il soufflait un vent d'ouest froid et violent. Ils se rapprochèrent du bord de la plateforme pour contempler les ruines en terrasse qui se déployaient 250 mètres plus bas sur la selle de cheval herbu.
« La dernière fois que je suis venu ici, il y a 3 semaines, Odysseus occupait l'un des sarcophages cryotemporels où je dors d'ordinaire, » expliqua sa vie. « C'est en raison de son arrivée, et ce qu'elle signifie, que je me suis enfin décidé à vous contacter, à graver ses indications sur un rocher sèche. »
Ada, Harman, Anna et Daiman fixèrent la vieille femme, montrant par leur attitude qu'ils ne comprenaient ni la forme ni le fond de cette déclaration. Elle n'alla pas plus loin. Les 4 voyageurs se tournèrent vers Odysseus comme en attente d'une explication qui ne vint pas.
« Que mangeons-nous ce soir ? » s'enquit-il.
« La même chose, » répondit sa vie.
L'homme barbu secoua la tête.
« Non, » dit-il.
Pointant un index épais sur Harman, puis sur Daiman, il ajouta
« Vous deux, il nous reste 1 heure avant la tombée de la nuit. Le moment idéal pour la chasse. Voulez-vous m'accompagner ?»«
Non, »
fit Daiman.
« Je veux venir, »
dit Ada, surprise par l'intensité de sa voix.
« S'il te plaît. »
Odysseus la considéra durant un long moment.
« D'accord, » dit-il finalement.
« Je devrais venir, moi aussi, »
dit sa vie d'un air dubitatif.
« Je sais me servir de ta machine, »
répliqua Odysseus en désignant le Sony d'un mouvement de menton.
« Je sais, mais... »
Sa vie posa une main sur l'arme passée à sa ceinture.
« Inutile, » dit Odysseus. « Je pars à la chasse, pas à la guerre. » « Il n'y aura pas de Voynix dans les parages. »
Sa vie hésitait toujours. Odysseus se tourna vers Ada et Harman.
« Attendez-moi ici. Je vais chercher ma lance et mon bouclier, et je reviens. »
Harman éclata de rire, puis comprit que le guerrier en tunique parlait sérieusement. Odysseus savait effectivement piloter le Sony. Ils s'élevèrent au-dessus du pylône, firent un tour au-dessus des ruines, y projetant des ombres ouvragées par le couchant, et s'engagèrent à grande vitesse dans une vallée.
« Je croyais que tu voulais chasser sous le pont, »
dit Harman, élevant la voix pour se faire entendre malgré le vent. Odysseus fit non de la tête. Ada remarqua que ses cheveux argentés lui retombaient sur la nuque comme une crinière bouclée.
« Il n'y a rien par ici, hormis des jaguars, des rongeurs et des fantômes, »
déclara Odysseus.
« Il nous faut aller dans la plaine pour trouver du gibier. Je pense à une proie en particulier. »
Ils sortirent du canyon à vive allure, survolant des hauts plateaux où poussaient cicadas et fougères. Le soleil n'avait pas encore disparu derrière les montagnes, et toute chose était flanquée d'ombres longilignes. Un troupeau apparut devant eux, de gros herbivores qu'Ada ne put identifier, à la robe brune et aux postérieurs rayés de blanc. D'une forme rappelant celle de l'antilope, ils étaient d'une taille 3 fois supérieure, avec des pattes bizarrement articulées, un long cou flexible et un groin pendant semblable à une trompe rosâtre. Le Sony les survola en silence et pas un ne leva la tête.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harman.
« De la viande, » répondit Odysseus.
Il perdit de l'altitude, puis atterrit derrière de hautes fougères à une 30aine de mètres sous le vent des créatures. Le soleil sombrait à l'horizon. Outre 2 lances ridiculement longues, toutes 2 dépassaient du champ de force à l'avant et à l'arrière du Sony, Odysseus avait avec lui un bouclier circulaire en bronze ouvragé et cuir tanné, ainsi qu'un glaive dans son fourreau et un couteau passé à la ceinture de sa tunique. Aux yeux d'Ada, qui coiffait le Turin plus souvent qu'elle ne l'avait confié à Harman, l'apparition dans son monde d'un homme associé à la fantastique épopée troyenne était quelque peu étourdissante. Quittant sa couchette, elle entreprit de suivre les 2 hommes qui s'éloignaient du Sony.
« Non, » fit sèchement Odysseus. « Reste à bord !»«
Il n'en est pas question !» répliqua Ada.
Odysseus poussa un soupir et reprit dans un murmure.
« Restez ici tous les 2 derrière ce buisson. Ne bougez pas. Si quelque chose s'approche, remontez dans le Sony et activez le champ de force. »
« Je ne sais pas comment on fait, » répondit Harman sur le même ton.
« J'ai laissé l'IA en route. Prenez place dans les couchettes et dites « champ de force, activation. »
Ses 2 lances à la main, Odysseus s'avança dans la prairie, se dirigeant en silence vers les herbivores au long groin. Ada les entendait grogner et mâchonner, entendait leurs dents trancher l'herbe, sentait leur odeur tenace. Ils ne firent pas mine de fuir en découvrant l'homme qui approchait, et lorsque les animaux paissant aux marges du troupeau levèrent les yeux vers lui, il se trouvait à 12 de mètres d'eux. Il fit halte, posa son bouclier et l'une de ses lances, puis leva l'autre. Les herbivores avaient cessé de mâchonner et observaient l'étrange bipède avec attention, mais sans le moindre signe d'affolement. Le corps puissant d'Odysseus se ramassa sur lui-même, se détendit et frappa. La lance fendit l'air en ligne droite, se plantant dans l'animal le plus proche et lui transperçant le cou. Il se tordit sur ses pattes, poussa un cri étouffé et tomba comme une masse. Ses congénères reniflèrent, bêlèrent et s'égaillèrent, zigzagant d'une façon qu'Ada n'avait jamais vue avant ce jour, leurs pattes aux articulations hors du commun leur permettant des changements de direction quasi instantanés, jusqu'à ce que la totalité du troupeau ait disparu dans une combe à 1500 mètres au nord. Tombant à genoux à côté de l'animal mort, Odysseus saisit le couteau à lame courbe passé à sa ceinture. Quelques coups bien placés, et il avait ouvert la cavité abdominale, dont il entreprit d'extraire les entrailles, les dispersant dans l'herbe autour de lui, exception faite du foie, qu'il plaça sur une feuille de plastique qu'il avait dépliée à portée de main. Après quoi, il dépeça l'animal à hauteur de la hanche, prélevant une épaisse tranche de viande rouge qu'il posa également sur la feuille de plastique. Puis il lui trancha la gorge, inondant l'herbe de sang, et dégagea sa lance en prenant soin de ne pas la briser. Il en nettoya la hampe et la pointe de bronze sur les herbes. Près de son buisson, Ada se sentit soudain prise de vertige et décida de s'asseoir plutôt que courir le risque de défaillir. Jamais elle n'avait vu un animal se faire tuer par un être humain, encore moins se faire dresser et partiellement dépecer avec une telle expertise. C'était horriblement efficient. Honteuse de sa réaction, mais bien décidée à rester consciente, elle laissa pendre sa tête entre ses cuisses jusqu'à ce que son champ visuel soit à nouveau vierge de taches noires. Harman lui posa une main sur l'épaule en signe d'inquiétude, puis se dirigea vers la carcasse après qu'elle l'eut chassé d'un geste.
« Reste où tu es !»
lui ordonna Odysseus. Surpris, Harman fit halte.
« Ils sont partis.
Tu as besoin d'aide pour porter. » Odysseus leva une main pour lui faire signe de ne plus bouger.
« Ce n'est pas cela que je chasse, c'est... plus un geste !»
Harman et Ada se tournèrent vers l'ouest, deux créatures bipèdes de couleur blanc, noir et rouge fonçaient vers la scène à vive allure, encore plus rapide que les herbivores. Ada sentit sa gorge se nouer et vit Arman se figer sur place. Les créatures filèrent vers Odysseus et sa proie étripée à plus de 100 km à l'heure, puis freinèrent dans un petit nuage de poussière. Ada reconnut les animaux qu'ils avaient vus depuis le Sony. Des oiseaux terreurs, avait dit sa vie. Mais ces grandes autruches pataudes qu'elle avait jugées tellement comiques lui apparaissaient à présent comme belles et bien terrifiantes. Les deux oiseaux terreurs, qui avaient fait halte à 5 pas de la carcasse, n'avaient maintenant d'yeux que pour Odysseus. Chacun d'eux mesurait près de 3 mètres de haut. Leur corps musclé était recouvert d'un fin duvet blanc, leurs ailes atrophiées de plumes noires, et ils avaient des pattes puissantes, aussi épaisses que le torse d'Ada. Quant à leur bec, incurvé selon un angle inquiétant, il mesurait 1,20 m ou davantage. Il était coloré de rouge autour de la gueule, comme s'il l'avait trempé dans le sang, et contrôlé par de puissants maxillaires qui saillaient sous les 5 ou 6 longues plumes rouges poussant à l'arrière de leur crâne. Leurs yeux étaient d'un jaune bilieux, maléfique, entourés de cernes bleues et enchâssés sous un front de saurien. Outre leur bec redoutable, les oiseaux étaient armés de puissants ergots, aussi longs que l'avant-bras d'Ada, et de griffes encore plus impressionnantes au bout de leurs ailes. Ada comprit tout de suite que ces monstres étaient des prédateurs et non des charognards. Odysseus se dressa de toute sa taille, une lance dans chaque main. Les oiseaux terreurs hochèrent sèchement la tête à l'unisson, échangèrent un regard de leurs yeux jaunes et se déployèrent comme un couple de danseurs étoiles, se préparant à attaquer Odysseus sur ses deux flancs. Ada sentait la puanteur qui se dégageait de ces monstres. Il ne faisait aucun doute pour elle que leurs pattes puissantes pouvaient les propulser sur leur proie, sur Odysseus, d'un seul bond de 6 ou 7 mètres, toutes griffes dehors. En outre, ces deux-là étaient visiblement rompus au travail en équipe. Odysseus ne leur laissa pas le temps de se mettre en position. Avec une grâce létale, il projeta sa première lance, vite, fort, droit, sur le corps musclé de l'oiseau sur sa gauche, puis pivota sur ses talons pour faire face à l'autre. Le premier oiseau poussa un horrible cri sur aigu qui glaça les sangs d'Ada, mais l'instant d'après, c'était Odysseus qui poussait un rugissement, tandis qu'il bondissait au-dessus de la carcasse de l'herbivore, faisait passer sa seconde lance de la main gauche à la droite et en braquait la pointe sur l'œil du second oiseau terreur. Reculant et vacillant, le premier oiseau attaqua du bec la lance plantée dans son corps en brisant l'épaisse hampe en bois de chêne. Le second oiseau esquiva le coup d'Odysseus d'un vif mouvement de la tête à la façon d'un cobra. Visiblement surpris d'être ainsi agressé par ce misérable bipède, le monstre fit 2 petits bonds, reculant d'environ 3 mètres, et leva une patte pour parer les coups de lance. Odysseus dut batailler ferme pour éviter de perdre son arme peu maniable. Sans cesser de hurler, il recula d'un pas, sembla trébucher sur la carcasse de l'herbivore et roula sur le flanc. S'empressant de profiter de l'occasion, l'oiseau terreur encore indemne fit un bond de 2,50 m et retomba sur Odysseus, les griffes déployées. Odysseus se releva vivement, mit un genou à terre d'un mouvement fluide et planta la hampe de sa lance dans le sol un instant avant que l'oiseau atterrisse dessus, en pesant de tout son poids, s'empalant sur la pointe de bronze qui lui transperça le cœur. Odysseus dut à nouveau rouler sur lui-même pour éviter d'être écrasé lorsque la créature sans vie s'effondra sur l'herbe. « Attention !» s'écria Arman qui se mit à courir vers lui. Le premier oiseau terreur, qui perdait son sang en abondance là où la lance brisée était plantée dans son torse, fondait sur Odysseus, l'attaquant à revers. Sa tête oscilla au sommet de son cou de 2 mètres et son horrible bec se referma là où le crâne d'Odysseus se serait trouvé s'il avait reculé. Le guerrier avait choisi de tomber en avant, roulant à nouveau sur lui-même et échappant à la mort, mais il avait désormais les mains vides, et l'oiseau terreur vira sèchement, équipé qu'il était de pattes aussi versatiles que celles des herbivores. « Hé !» lança Arman en lui jetant un caillou. L'oiseau terreur leva la tête sur toute sa hauteur, fusilla de ses yeux jaunes ce nouveau bipède impertinent et fonça aussitôt sur lui. Arman eut le temps de glisser sur l'herbe, de s'écrier « Merde !» et de faire demi-tour. Puis il comprit qu'il ne pourrait jamais distancer le monstre, et il se retourna, les jambes écartées, les poings levés, comme s'il était prêt à l'affronter à main nue. Ada chercha du regard un caillou, un bâton, une arme quelconque. Aucune n'était visible. Elle se leva d'un bond. Odysseus s'empara de son bouclier et, utilisant la carcasse comme tremplin, sauta sur le dos de l'oiseau terreur tout en tirant son glaive de son fourreau. Sans cesser de foncer sur Arman et sur Ada, l'oiseau se tordit le cou et agita la tête, ouvrant et refermant son bec dans le but de saisir le bouclier d'Odysseus. Celui-ci était secoué chaque fois que se refermaient les puissantes mâchoires, mais ses jambes enserraient solidement le corps de l'animal et il tenait bon, pareil à un cavalier émérite dans l'épopée du Turin. Puis, alors que l'oiseau tournait à nouveau ses yeux jaunes vers Arman, Odysseus se pencha vers lui et, frappant son cou au plumage blanc avec le tranchant de sa lame, lui coupa une artère. Il descendit d'un bond, se recevant sur ses deux pieds, et courut vers Arman tandis que l'oiseau terreur s'effondrait de tout son long à moins de 3 mètres 2. Un geyser de sang jaillit sur une hauteur de 1 mètre 50, puis diminua d'intensité et se tarit comme le cœur de la créature cessait de battre. Haletant, maculé de sang, d'herbivore et de carnivore, d'herbe et de boue, tenant toujours haut son glaive et son bouclier également ensanglanté, Odysseus se fendit d'un large sourire et dit
« Je n'en voulais qu'un pour le dîner, mais autant dépecer aussi l'autre pour faire des provisions. »
Ada s'approcha d'Arman et lui posa une main sur le bras. Il ne daigna même pas la voir. Ses yeux étaient immenses. Odysseus se dirigea vers l'oiseau le plus proche, le décapita et fit courir son couteau le long du torse, dissociant la peau, la chair et les plumes, avec autant de facilité que s'il débarrassait la bête de plusieurs couches de vêtements.
« Il me faudra d'autres sacs en plastique, » dit-il à Arman et à Ada. « Il y en a dans le Sony, dans une petite soute située à l'arrière. Dites « soute ouverture » à la machine. Elle obéira. Mais dépêchez-vous !»
Arman, qui se dirigeait déjà vers l'engin, se retourna.
« Nous dépêcher ? Pourquoi donc ?»
Odysseus essuya du revers de la main sa barbe maculée de sang et leur sourit de toutes ses dents.
« Ces oiseaux reniflent le sang à 10 lieues de distance. Et il y a des centaines de couples d'oiseaux terreurs rôdant dans la plaine à la tombée de la nuit. »
Arman se mit à courir vers le Sony pour aller chercher les sacs. Comme l'observa Ada, sa vie et Daeman étaient ivres bien avant le dîner. Celui-ci se déroula dans une salle de verre fixée au câble porteur du pylône sud. Sa vie réchauffait des plats tout près dans une bulle à micro-ondes des plus ordinaires, mais Ada était néanmoins fascinée. C'était la première fois de sa vie qu'elle voyait un être humain préparer un repas. L'absence de serviteurs dans les parties habitables du Golden Gate était encore plus criante à l'heure du dîner. Odysseus se trouvait dehors, sur le large câble, où il avait érigé une étrange structure de pierre et de métal dans laquelle il faisait brûler du bois rapporté de la plaine. Il avait commencé à pleuvoir et Odysseus avait dû adapter son foyer aux circonstances. Les flammes illuminaient la façade du pylône, où la peinture orange se mêlait à la rouille. Contemplant la scène à travers le verre translucide, sirotant son verre de gin, Arman demanda «
S'agit-il d'un autel dressé en l'honneur de ces dieux païens ?»«
Pas tout à fait, » répondit Savi.
« C'est ainsi qu'il cuit sa nourriture. »
Elle posa des plats et des assiettes sur la table autour de laquelle attendaient les autres.
« Dis-lui de nous rejoindre, veux-tu »
pria-t-elle Arman.
« Notre nourriture va refroidir pendant qu'il incinère la sienne, et une tempête arrive sur les montagnes. Il serait mal inspiré de se trouver sur le câble, si la foudre se met à frapper. »
Lorsqu'ils furent tous assis, Odysseus ayant posé hors de vue les plats contenant la viande fumante et calcinée, Savi fit tourner une carafe de vin. Elle se servit en dernier et Ada l'entendit murmurer
« Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borai pri hafagen. »
« Qu'est-ce que ça veut dire ? »
s'enquit-elle à mi-voix. Occupés à s'esclaffer d'une remarque de Daeman, les autres n'avaient pas prêté attention à ses paroles. Jamais Ada n'avait entendu parler d'autre langue que l'anglais courant, sauf lorsqu'elle coiffait le Turin. Les héros de l'épopée s'exprimaient en charabia, mais la moindre de leurs paroles était traduite par le Turin, de sorte qu'on en comprenait le sens sans même les écouter. Sa vie secoua la tête, mais Ada n'aurait su dire si elle ignorait le sens de sa déclaration ou si elle ne souhaitait pas le lui expliquer.
« J'ai exploré tous les niveaux du pont et toutes les bulles alentour, » disait Anna tout excitée. « Le métal composant le pont est vieux et tout rouillé, mais il est stupéfiant. Et j'ai vu d'étranges formes métalliques dans les salles des niveaux inférieurs. Elles ne font partie d'aucune structure. Et leur forme est parfois celle d'un homme ou d'une femme. »
Sa vie partit d'un grand rire. Elle se resservait déjà du vin. Cette fois-ci, elle ne prononça aucun mot pour accompagner son geste.
« Ce sont des statues, » expliqua Odysseus. « Des sculptures. Tu n'as jamais vu de statues ?»
Anna secoua lentement la tête. Bien qu'elle ait passé des années à apprendre comment fondre le métal, Ada la savait choquée par l'idée de façonner un objet à l'image d'un être humain, voire d'un être vivant en général. Elle aussi trouvait cette idée des plus étranges.
« Ils ignorent toute forme d'art, » dit sèchement Savie en s'adressant à Odysseus.
« Que ce soit la sculpture ou la peinture, l'artisanat ou la photographie, l'holographie ou même l'ingénierie génétique. » Ils ne connaissent ni la musique, ni la danse, ni le ballet, ni le sport, ni même le chant. Ils ne savent rien du théâtre, de l'architecture, du kabuki et du no. Ils sont aussi créatifs que...
des oisillons.
Non, je retire ce que j'ai dit. Les oisillons savent chanter, faire leur nid. Ces Héloïs des derniers jours sont des coucous muets, qui squattent les nids des autres oiseaux sans même chanter pour payer leur loyer. »
Sa voix se faisait légèrement traînante. Odysseus se tourna vers Anna, Ada, Daeman et Arman, et son visage était indéchiffrable. Les quatre compagnons, quant à eux, fixaient sa vie du regard et s'interrogeaient sur sa mauvaise humeur.
« D'un autre côté, » reprit-elle en regardant Odysseus droit dans les yeux, « ils n'ont pas de littérature non plus. Comme toi. »
Odysseus lui adressa un sourire. Ada l'avait déjà vu sourire ainsi, lorsqu'il avait partiellement dépecé la carcasse de l'herbivore. Avant le dîner, Odysseus s'était lavé, et ses cheveux gris et bouclés avaient eu droit à un shampoing, mais Ada voyait encore ses bras, ses mains et sa barbe maculées de sang et de lymphe. Cela ne la regardait pas, mais sa vie avait sans doute tort de le provoquer ainsi.
« Le préalphabétisé rencontre les post-alphabétisés, » reprit cette dernière.
Elle ouvrit les bras comme pour présenter Odysseus aux quatre autres. Puis elle leva un index.
« Oh ! J'oubliais ! Notre ami Arman ! C'est le Balzac, le Shakespeare de cette humanité à l'ancienne des nouveaux jours. » Pour ce qui est de la lecture, son niveau est à peu près celui d'un enfant de 6 ans de l'air perdu, n'est-ce pas, Arman Ur? Tu murmures les mots en les lisant, hein?
Oui, fit Arman avec un petit sourire. Je les prononce en effet. J'ignorais qu'il existait une autre méthode. Et il m'a fallu plus de 80 pour atteindre le niveau qui est le mien.
Ada comprit que le presque centenaire se savait insulté, mais qu'il ne s'en souciait point, que seul le contenu du discours de sa vie l'intéressait.
Quel était cet animal que tu as tué aujourd'hui ?
Demanda-t-elle à Odysseus d'une petite voix.
Pas les oiseaux terreurs, l'autre.
J'appelle ça une antilope à long museau, répondit Odysseus. Tu veux en goûter ?
Tendant une main vers le comptoir, il attrapa un plat contenant de la viande calcinée et le tendit à Ada. Celle-ci, soucieuse de politesse, prit le plus petit des morceaux, le tenant maladroitement avec ses ustensiles.
« J'en veux bien, moi aussi, » dit Arman.
Le plat fit le tour de la tablée. Anna et Daeman considérèrent la viande d'un air sceptique, la humèrent, sourirent et refusèrent poliment. Quand vint le tour de sa vie, elle passa le plat à Odysseus sans dire un mot. Ada mordit dans la minuscule portion qu'elle venait de découper.
Cette viande était délicieuse. On aurait dit du steak en plus corsé,
La fumée lui donnait une saveur inconnue des préparations au micro-ondes qui faisaient son ordinaire. Elle se découpa un morceau plus copieux. Odysseus s'aidait pour manger d'un petit couteau à la lame affûtée qu'il avait toujours sur lui, découpant la viande en filets qu'il mâchait à même le métal. Ada s'efforça de ne pas le fixer des yeux.
« Makra ou Kenya ?»
dit soudain sa vie entre deux bouchées de riz et de salade. Ada leva la tête, se demandant si ce mot avait un lien avec l'étrange rituel de la vieille femme. « Pardon ?» fit Daeman.
« Makra ou Kenya ?»
C'est le nom de l'animal qu'a tué notre ami grec et que nos deux autres amis dévorent avec un appétit d'ogre. Il grouillait dans les plaines d'Amérique du Sud il y a 2 millions d'années, mais se sont éteints bien avant la venue de l'homme sur ce continent.
Ce sont les arnistes qui les ont ressuscités durant les années de folie qui ont suivi le Rubicon, avant que les post-humains mettent un terme à la récréation anarchique d'espèces disparues. Auparavant, toutefois, certains arnistes ont cru malin de ramener le Forus Racos pour réguler la population macraukenia.
Le quoi ? Dit Daeman.
Le Forus Racos, l'oiseau terreur. Nos petits génies de la génétique avaient oublié que cette bestiole avait passé des millions d'années à régner sur l'Amérique du Sud en tant que prédateur en chef. Jusqu'au moment où les smilodons sont descendus de l'Amérique du Nord, profitant de la baisse du niveau de la mer et de l'émergence d'un isthme entre les deux masses terrestres. Au fait, saviez-vous que l'isthme de Panama était de nouveau sous les eaux? Que les continents étaient de nouveau séparés?
Elle parcourut la tablée du regard, visiblement ivre et d'humeur belliqueuse, ravie de savoir qu'aucun de ses invités ne comprenait un traître mot de son discours.
Arman sirota son vin.
Souhaitons-nous savoir ce qu'est un smilodon ?
Demanda-t-il. Savi haussa les épaules.
C'est un gros chat, avec des dents de sabre. Il croquait de l'oiseau terreur au petit déjeuner, et se curait les crocs avec leurs griffes. Ces crétins d'arnistes ont aussi ressuscité les tigres à dents de sabre, mais pas ici, en Inde. Quelqu'un sait-il où c'est ? Où c'était ? Où ça devrait être ? Hein ? Les post-humains l'ont détaché de l'Asie pour en faire un archipel, nom de Dieu !
Les cinq autres la regardèrent sans rien dire.
Merci de me l'avoir rappelé, dit Odysseus avec son étrange accent. Au menu, de l'oiseau terreur.
Il se dirigea vers le comptoir et en revint avec le grand plat.
Cela faisait un moment que j'avais envie d'y goûter, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas trouvé le temps d'aller à la chasse. Qui en veut ?
Tous se portèrent volontaires pour goûter une tranche, hormis Daeman et Savi. Chacun d'eux se resservit du vin. Au dehors, la tempête faisait rage et des éclairs déchiraient le paysage autour du pont, illuminant les ruines en contrebas ainsi que les nuages et les pics qui les entouraient. Après avoir avalé leurs morceaux de viande, Ada, Arman et Anna burent une goulée de vin coupée d'eau. Odysseus, impassible, dévorait bouchée après bouchée.
« Cela me rappelle un peu du poulet, » dit enfin Ada.
« Oui, c'est ça, du poulet, »
renchérit Anna.
Du poulet, mais en plus fort, en plus amer, précisa Arman.
Du vautour,
trancha Odysseus.
C'est le goût du vautour.
Il mordit dans sa tranche, déglutit et sourit.
La prochaine fois que je cuisinerai de l'oiseau terreur, j'ajouterai de la sauce, beaucoup de sauce.
Pendant qu'Odysseus se resservait de l'oiseau terreur et du macraukenia, arrosé de copieuses rations de vin, les cinq autres revinrent au riz réchauffé au micro-ondes. N'eût été la tempête, le silence régnant autour de la table aurait fini par devenir gênant. Le vent s'était levé, les éclairs fendaient le ciel de façon presque continue, baignant la cellule d'un éclat aveuglant, et le tonnerre aurait étouffé toute conversation. Le globe vert semblait frémir à chaque souffle de vent, et les quatre voyageurs échangeaient des regards de plus en plus inquiets.
« Tout va bien, »
les rassura Savi. Elle ne paraissait plus ni grise ni colérique, comme si son récent éclat avait suffi à apaiser l'amertume qui l'habitait.
Le pari-glace n'est pas conducteur d'électricité, et nous sommes bien fixés en position. Tant que le pont tiendra debout, nous ne risquons pas de tomber.
Elle vida son verre et eut un sourire sans humour.
Certes, ce pont est une véritable antiquité, et je ne peux pas vous garantir qu'il ne s'effondrera pas.
La tempête perdit de sa violence, et alors que Savi leur servait du café et du thé chai dans des gobelets de forme étrange, Anna déclara
« Tu avais promis de nous dire comment tu étais arrivé ici, Odysseus Ur. »
« Tu veux que je vous chante mes tours et mes détours, la façon dont j'ai été écarté de ma route, encore et encore, au temps où mes camarades et moi avons pillé les palais de Pergame ?» répondit-il d'une voix douce.
« Oui, »
fit Anna.
« Je le ferai. Mais d'abord, je crois que Savi Ur a quelque chose à vous demander. »
Tous se tournèrent vers la vieille femme.
« J'ai besoin de votre aide, »
dit celle-ci.
« Pendant des siècles, j'ai évité de m'exposer à votre monde, aux Voynix et aux autres guetteurs qui me veulent du mal. Mais si Odysseus est parmi nous, c'est pour une raison bien précise, et ses buts servent les miens. Je souhaiterais que vous l'emmeniez avec vous, que vous l'hébergiez chez l'un de vous, là où d'autres pourront lui rendre visite, afin qu'il puisse rencontrer vos amis et s'entretenir avec eux. »
Ada, Arman, Daeman et Anna échangèrent un regard.
« Pourquoi ne se faxe-t-il pas là où il a envie d'aller ?»
demanda Daeman. Savi secoua la tête.
« Odysseus ne peut se faxer nulle part, tout comme moi. »«
C'est stupide !» rétorqua Daeman. « Tout le monde peut se faxer !»
Poussant un soupir, Savi vida la carafe de vin dans son verre.
« Sais-tu ce qu'est le fax, mon garçon ?»«
Évidemment !» dit Daeman en riant. « C'est la façon d'aller de l'endroit où on est à celui où on a envie d'être !»«
Mais comment ça fonctionne ?»
insista Savi. Daeman secoua la tête devant une telle stupidité.
« Que veux-tu dire comment ça fonctionne ?» Ça fonctionne, point, comme les serviteurs ou l'eau courante.
On utilise un portail fax pour aller d'un endroit à un autre, d'un nœud fax à un autre. Arman leva la main.
Ce que veut dire Savi Ur, c'est comment fonctionne la machinerie qui nous permet de nous faxer, Daeman Ur.
Je me suis parfois posé la question, intervint Anna. Je sais construire une fournaise pour fondre le métal. Mais comment peut-on construire un portail fax qui nous transporte d'un endroit à un autre sans parcourir la distance qui les sépare ?
Savi s'esclaffa.
On ne le peut pas, mes enfants. Vos portails fax ne vous envoient nulle part. Ils vous détruisent. Ils vous dissocient jusqu'au dernier de vos atomes. Et ils n'envoient ceci nulle part. Ils se contentent de les stocker jusqu'à ce que le prochain faxé en ait besoin. Vous n'allez nulle part quand on vous faxe. Vous mourrez, et un autre vous-même est fabriqué ailleurs.
Odysseus but son vin et contempla la tempête dans le lointain, apparemment indifférent aux explications de Savi. Les quatre autres ouvraient des yeux démesurés.
« Mais, » fit Ada, « c'est...
dément !» déclara Daeman.
« Oui. »
fit Savi en souriant. Arman s'éclaircit la gorge et posa sa tasse de café.
Si nous sommes détruits chaque fois que nous nous faxons, Savi Ur, comment se fait-il que nous nous souvenions de tout quand nous arrivons ailleurs?
Il leva le bras droit.
Et cette petite cicatrice, je l'ai attrapée il y a 7 ans alors que j'en avais 92. Normalement, ces petits problèmes se règlent lorsque nous allons à l'infirmerie, tous les 20, mais il se tut, comme s'il venait de trouver lui-même la réponse à ses questions.
« Oui, » fit Savi, « les machines intelligentes qui gèrent les portails fax se rappelle la moindre de vos imperfections, tout comme elle se rappelle vos souvenirs et votre psychostructure. Et c'est cette information et non pas vous, qu'elle transmette d'un fax à l'autre, vous remettant à jour et réparant vos cellules vieillissantes tous les 20 ans, vos séjours à la firmerie, comme vous dites. Mais à ton avis, Arman Ur, pourquoi disparaissez-vous le jour de votre 100e anniversaire? Pourquoi cesse-t-on de vous remettre à neuf quand vous atteignez cet âge? Où vas-tu aller le jour de ton anniversaire?
Ce fut Daeman qui répondit à la place d'Arman.
Dans les anneaux, espèce d'idiote!
Quand viennent nos 5 vins, nous montons dans les anneaux. Pour devenir des post-humains,
enchaîna Savi sans se soucier de dissimuler son rictus.
Pour monter aux cieux et s'asseoir à la droite de quelqu'un. Oui,
fit Anna, mais cela ressemblait à une question.
Non,
rétorqua Savi.
J'ignore ce qu'il advint de vos structures mémorielles stockées dans la logosphère jusqu'à votre 100e anniversaire. Mais je sais que les données ne sont pas envoyées dans les anneaux. Peut-être sont-elles archivées, mais je pense plutôt qu'elles sont détruites. Écrasées.
Pour la 2e fois durant cette longue journée, Ada se crut sur le point de défaillir. Elle fut cependant la première à se ressaisir.
« Pourquoi Odysseus Ur et toi ne pouvez-vous pas vous faxer, Savi Ur ? »
demanda-t-elle.
« Ou peut-être avez-vous choisi de ne pas le faire ?»«
Choisi de ne pas être détruit, de ne pas être démembré comme l'herbivore et les oiseaux terreurs que nous avons mangés ce soir. » Plongeant les doigts dans son verre d'eau, Ada se les passa sur les joues.
« Si Odysseus ne peut pas se faxer, c'est parce que la logosphère ne l'a jamais enregistré. » répondit Savi à voix basse. Sa première tentative serait aussi la dernière.
La logosphère ? Répéta Arman. Savi secoua la tête une nouvelle fois.
Voilà un sujet bien complexe. Trop complexe pour une femme de mon âge, qui en plus a un peu trop bu ce soir.
Mais tu nous expliqueras ce que c'est ? Insista Arman.
Je vous la montrerai. Et dès demain, avant que nous ne nous séparions.
Ada surprit le regard d'Arman. Il ne contenait son excitation qu'à grand-peine.
Mais cette logosphère, quelle que soit sa nature, contient un enregistrement de toi, n'est-ce pas ?
Demanda Anna.
Pour les 9 fax. Donc, tu pourrais te faxer, c'est ça ?
Savi eut un sourire qu'Ada classa comme triste.
Oh, oui. Elle ne m'a pas oublié depuis l'époque, il y a 1400 ans de cela, où je me faxais tous les jours. La logosphère guette mon apparition, pareil à un oiseau terreur invisible. Elle me repérerait sur le champ si j'utilisais l'un de vos portails fax, et je n'aurais pas l'occasion de récidiver.
Je ne comprends pas, dit Anna.
Laissons tomber ce baratin technique pour le moment,
décida Savi.
Contentez-vous d'accepter le fait que ni Odysseus ni moi-même ne pouvons emprunter vos portails fax. Et si je me rendais en aéronef dans votre société, je signerais mon arrêt de mort.
Pourquoi donc ?
S'enquit Arman.
Il n'y a pas de violence dans notre monde.
Exception faite de l'épopée du Turin. Et aucun de nous ne croit à sa réalité. Il jeta un regard entendu à Odysseus, mais ce dernier n'eut aucune réaction. Savi sirota son vin.
Croyez-moi sur parole quand je vous dis qu'il serait suicidaire pour moi de me montrer au grand jour. Croyez-moi aussi quand je vous dis qu'il est impératif pour Odysseus de pouvoir rencontrer des gens, de parler avec eux et d'en être entendu. Si je vous ramène en Sonie, l'un de vous acceptera-t-il de l'héberger chez lui pendant quelques semaines? 1 mois?
3 semaines, pas plus,
intervint Odysseus. À en juger par le ton de sa voix, il était irrité à l'idée qu'on parle de lui comme s'il n'était pas là.
« D'accord, » fit Savi. « 3 semaines. »
L'un de vous accepte-t-il d'offrir 3 semaines d'hospitalité à cet étranger en terre étrangère ?»«
Odysseus ne courrait-il pas les mêmes dangers que toi ?» demanda Daeman.
« Odysseus Ur est capable de se débrouiller tout seul, »
répliqua Savi. Les quatre compagnons restèrent silencieux une minute, s'efforçant de comprendre cette requête et ce qu'elle pouvait signifier. Ce fut Arman qui reprit la parole.
Je serai prêt à accueillir Odysseus, mais je tiens aussi à me rendre dans cet endroit où tu dis que je pourrais trouver un vaisseau spatial, Savi Ur. Mon but est d'aller dans les anneaux. Et comme tu l'as fait remarquer, j'approche de mon dernier vin. Je n'ai pas de temps à perdre. Je préférerais me lancer à la recherche de cette mer asséchée où, selon toi, les post-humains conservent une machine capable de voler vers l'anneau E et l'anneau P. Si tu m'apprenais à piloter ton Sony, alors peut-être que...
Savi se passa une main sur le front, comme en proie à la migraine.
Le bassin méditerranéen? Tu ne pourras pas le survoler, Arman Ur.
Tu veux dire que c'est interdit?
Je veux dire qu'on ne peut pas voler là-bas. Les Sony et autres machines volantes ne fonctionnent pas au-dessus du bassin.
Elle marqua une pause et considéra le petit groupe.
Mais il est possible de pénétrer dans le bassin à pied ou à bord d'un véhicule terrestre. Je me suis efforcé d'y parvenir pendant des siècles, sans succès. Mais je peux te conduire là-bas. À condition que l'un de tes amis accepte d'héberger Odysseus pendant 3 semaines.
Je veux vous accompagner, Arman et toi,
déclara Ada.
Moi aussi, dit Daeman. Je tiens à voir ce fameux bassin.
Arman le fixa d'un air surpris.
Et puis merde, fit Daeman. Je ne suis pas un lâche. Je parierais qu'aucun de vous ne peut se vanter d'avoir été dévoré par un allosaure.
Je bois à ces paroles, dit Odysseus en vidant son verre.
Savi se tourna vers Anna.
Tu restes la seule candidate, ma chère. Je serais ravie d'accueillir Odysseus,
dit la jeune femme.
Mais je ne me faxe pas souvent et je ne fréquente guère les fêtes. Je vis avec ma mère et elle reçoit peu de gens.
Alors ça ne marchera pas, j'en ai peur, dit Savi. Odysseus ne dispose que de 3 semaines.
Et nous devons sélectionner un lieu bien connu, où les gens peuvent séjourner pendant plusieurs jours d'affilée.
En fait, le château d'Ardis aurait été parfait,
acheva-t-elle en se tournant vers Ada.
Comment se fait-il que tu connaisses le château d'Ardis, Savi Ur,
demanda celle-ci.
Et d'ailleurs, comment se fait-il que tu sois informé des lectures d'Arman et de tout ce qui peut se passer dans le monde si tu ne peux ni te mêler à nous, ni utiliser les neufax?
J'observe,
répondit la vieille femme.
J'observe, j'attends, et le Sony me permet d'aller dans des lieux où je me mêle à vous.
L'homme qui brûle,
souffla Anna.
Oui, entre autres.
Savi parcourut la tablée du regard.
Vous avez l'air épuisé tous autant que vous êtes. Je vais vous montrer vos chambres et vous allez passer une bonne nuit de sommeil. Nous reprendrons cette discussion demain matin. Ne vous occupez pas de la vaisselle, je la ramasserai et la laverai tout à l'heure.
Aucun des convives n'avait envisagé de s'occuper de la vaisselle. Ada regarda autour d'elle une nouvelle fois, consciente de l'absence de serviteurs et de Voynix. Elle n'avait pas envie de se coucher tout de suite, il n'avait pas encore entendu le récit d'Odysseus, mais elle jeta un coup d'œil à ses amis. Ada semblait reclus de fatigue, Daeman était ivre et tenait à peine debout, Arman paraissait soudain son âge et sentit soudain l'épuisement la gagner. La journée avait été bien remplie. C'était l'heure de dormir. Odysseus resta assis tandis que Savi conduisait les 4 autres dans des couloirs illuminés par les éclairs lointains, puis sur un escalator gainé de verre qui s'enroulait autour du pylône nord du Golden Gate, aboutissant dans un long corridor bordé de chambres sphériques situées près du sommet du pylône en question. Ces chambres n'étaient pas attachées à la paroi d'acier, seulement au corridor de verre courant sur elles, et elles saillaient dans l'espace, tels des grains de raisin sur une grappe. Savi leur avait attribué des espaces individuels, et elle désigna le premier d'entre eux à Anna. La jeune femme hésita sur le seuil de la minuscule chambre. Même le sol de celle-ci était transparent, et elle s'empressa de battre en retraite pour regagner l'abri tout relatif du corridor moqueté.
« Tu ne cours aucun danger, »
lui assura Savi.
«
D'accord,
fit Anna en entrant de nouveau. Le lit était placé contre le mur du fond et un petit cabinet de toilette était aménagé près de celui du corridor, délimité par des paravents préservant la pudeur de chacun, mais toutes les autres cloisons de la chambre étaient aussi transparentes que le sol, donnant à son occupante une vue imprenable sur les ruines illuminées par les éclairs, 250 mètres plus bas. Anna traversa l'espace d'un pas mal assuré, se jetant avec reconnaissance sur le lit bien solide. Les trois autres l'applaudirent en riant.
« Si je dois me lever pour aller aux toilettes, je ne sais pas si j'en aurai le courage, »
avoua Anna.
« Tu t'y feras, Anna Our, » affirma Savi. La porte s'ouvre et se ferme par commande vocale, et elle n'obéira qu'à ta voix.
« Porte, ferme-toi, » ordonna Anna.
La porte se ferma en iris. Savi conduisit les trois autres à leur chambre, commençant par Daeman qui gagna son lit en vacillant, sans ressentir apparemment ni terreur ni vertige, poursuivant par Arman qui souhaita une bonne nuit aux deux femmes avant d'ordonner à sa porte de se fermer, et finissant par Ada.
« Dors bien, ma chère, » dit Savi. « Le lever de soleil est en général splendide, et j'espère que tu pourras le savourer demain matin. Rendez-vous au petit déjeuner. »
Une chemise de nuit en soie propre était posée sur son lit. Ada se rendit au cabinet de toilette, s'offrit une douche chaude mais brève, se sécha les cheveux, laissa ses vêtements sur le comptoir près du lavabo, enfila la chemise de nuit et se coucha. Une fois sous les couvertures, elle se tourna vers le mur et contempla les sommets enveloppés de nuages. La tempête était partie vers l'est. Les éclairs illuminaient les nuages de l'intérieur et seul le clair de lune baignait les ruines et la selle de cheval. Ada considéra la chaussée du pont et les pierres en contrebas. Qu'avait dit Odysseus à propos de ce lieu? Qu'on n'y trouvait que des jaguars, des rongeurs et des fantômes? En regardant les antiques pierres gris pâles à la lueur de l'astre nocturne, Ada se sentait prête à croire aux fantômes. On frappa doucement à sa porte. Elle se glissa hors du lit, avança à pas de loup sur le sol glacial, posa le bout de ses doigts sur le battant métallique.
« Qui est là ?»
Arman. Ada sentit son cœur battre plus fort. Elle avait espéré, souhaité même, qu'Arman viendrait la rejoindre cette nuit.
« Porte, ouvre-toi, »
murmura-t-elle.
Comme elle reculait, elle aperçut son reflet sur le mur et remarqua la blancheur laiteuse de ses bras, de sa chemise de nuit éclairée par la lune. Arman entra puis s'arrêta, tandis qu'Ada ordonnait à la porte de se refermer. Il était vêtu d'un pyjama de soie bleue. Elle attendit qu'il la prenne dans ses bras, qu'il la porte sur le lit niché contre le mur incurvé. Quelle sensation éprouvait-on, songea-t-elle, quand on faisait l'amour en se sentant flotter au-dessus de ces nuages, de ces montagnes?
Il faut que je te parle, dit Arman à voix basse.
Ada acquiesça.
À mon avis, il est important qu'Odysseus se trouve dans le lieu qui convient durant les prochaines semaines, déclara-t-il. Et le domi de la mère d'Anna ne me paraît pas convenir.
Se sentant ridicule, Ada croisa les bras pour se couvrir les seins. Elle crut sentir l'air froid des montagnes traverser le sol transparent pour lui glacer les pieds.
Tu ignores tout des intentions et des motivations d'Odysseus,
chuchota-t-elle.
Exact. Mais s'il est bien Odysseus, alors c'est sans doute très important. Et Savi a raison. Le château d'Ardis est parfait quand on souhaite rencontrer beaucoup de gens.
Ada sentit la colère monter en elle. Qui donc était cet homme pour lui dicter sa conduite?
S'il est si important de l'héberger chez quelqu'un, pourquoi ne l'héberges-tu pas à ton domicile pour qu'il soit ton invité?
Je n'ai pas de domicile, répondit Arman.
Ada sursauta, cherchant à comprendre ce qu'il venait de dire.
« Impossible.
Tout le monde avait un domicile. »«
Cela fait des années que je vis en nomade, » expliqua Arman.
« Je ne possède que ce que je peux porter, exception faite des livres que j'ai amassés et que je conserve dans un domi inhabité de Paris-Cratère. »
Ada ouvrit la bouche, mais ne put trouver ses mots.
Arman se rapprocha d'elle, si près
qu'elle sentit son odeur d'homme et de savon. Lui aussi s'était douché ce soir. Allons-nous faire l'amour après cette discussion, se demanda-t-elle, sentant sa colère se dissiper aussi vite qu'elle était apparue.
Je dois aller dans le bassin méditerranéen avec sa vie, reprit Arman. Cela fait plus de 60 ans que je cherche un moyen de me rendre dans les anneaux, Ada. Arrivé si près du but, je ne peux pas m'arrêter là.
Ada sentit sa colère qui revenait.
Mais je veux y aller avec toi. Je veux voir ce bassin, trouver un vaisseau spatial, aller dans les anneaux. C'est pour cela que je t'ai aidé ces dernières semaines.
Je sais, murmura Arman en la prenant par le bras.
Et je veux que tu m'accompagnes. Mais cette histoire d'Odysseus est peut-être importante.
Je sais, mais...
Et franchement, Anna ne connaît pas beaucoup de gens. Pas plus qu'elle n'a de place d'en recevoir.
Je sais.
Mais et le château d'Ardis serait parfait, acheva Arman.
Il lâcha le bras d'Ada, mais la retint par l'intensité de son regard. Elle voyait clairement les étoiles derrière le plafond qui s'incurvaient au-dessus de leur tête.
Je sais que le château d'Ardis serait parfait,
dit-elle, déchirée entre plusieurs envies, plusieurs personnes.
Mais nous ne savons même pas ce que veut cet Odysseus, ni qui il est vraiment.
Exact, reconnut Arman. Mais si tu devais l'héberger pendant que je pars à la recherche d'un vaisseau dans le bassin méditerranéen, tu aurais toutes les chances de le découvrir. Et si je trouve un appareil capable de gagner les anneaux, je te promets que je viendrai te chercher pour t'y emmener avec moi.
Ada hésita avant de répondre. Son visage était tourné vers celui d'Arman, et elle avait l'impression qu'il allait l'embrasser si jamais elle cessait de parler. Soudain, un éclair déchira le ciel et un coup de tonnerre lointain fit trembler la bulle de verre.
« D'accord, » murmura Ada. « J'hébergerai Odysseus au château d'Ardis pendant 3 semaines et je demanderai à Anna de m'assister. Mais à la seule condition que tu me promettes de m'emmener dans les anneaux si tu trouves un moyen d'y parvenir. »
« Je te le promets, » dit Arman. Et ce fut à ce moment-là qu'il l'embrassa, mais seulement sur la joue. Comme l'aurait embrassé son père, songea Ada, si elle l'avait seulement connu. Arman se retourna comme pour partir, mais avant qu'Ada ait eu le temps d'ordonner à la porte de s'ouvrir, il pivota pour lui faire face.
« Que penses-tu d'Odysseus ? » demanda-t-il. « Que veux-tu dire ? Tu veux savoir si je pense que c'est le véritable Odysseus ?»
Cette question la déconcertait.
« Non. Qu'est-ce que tu penses de lui ?
Est-ce qu'il t'intéresse ?
Est-ce que son histoire m'intéresse, tu veux dire ? Cela m'intrigue, je l'avoue. Mais il faut que j'en apprenne davantage avant de décider s'il dit bien la vérité. Non, je... »
Arman se tut et se frotta le menton d'un air embarrassé.
Je veux dire... Est-ce que tu le trouves intéressant ? Est-ce qu'il t'attire ?
Ada ne put s'empêcher de s'esclaffer. Quelque part à l'est, le tonnerre fit écho à son rire.
« Espèce d'idiot !» dit-elle.
Lasse d'attendre, elle serra Arman dans ses bras et l'embrassa sur les lèvres. Arman resta passif durant quelques secondes, puis lui rendit son baiser. Ada le sentit se durcir à travers la mince barrière de soie qui les séparait. Le clair de lune coulait comme du lait renversé sur la peau de leur visage et de leurs bras. Soudain, une puissante bourrasque secoua le pont et la bulle où ils se trouvaient vacilla sous leurs pieds. Arman souleva Ada dans ses bras et la porta jusqu'au lit.